VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 à Abidjan et à Bamako, 19h30 à Kananga et à Kinshasa. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, accalmie à Kananga dans le Kasaï oriental en RDC, même si des inquiétudes demeurent.
J'aime à Kananga ici, dans le centre de la ville, il y a un peu d'accalmie.
Près de 8500 migrants ont été secourus au cours de 35 opérations au large des côtes libyennes ce week-end. Contestation croissante de l'opposition en Turquie au lendemain du référendum sur l'extension des pouvoirs du président. Le ton monte entre Pyongyang et Washington.
Les risques sont véritablement énormes parce que la Corée du Nord a des moyens de représailles très importants.
Et puis dans un petit peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, nous ouvrons cette édition avec la République démocratique du Congo. À Kananga, capitale du Kasaï central, le calme est revenu après plusieurs mois d'affrontements entre forces de l'ordre et les milices de Kwame Nsapu. Mais en périphérie de la ville, la situation reste extrêmement tendue. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC, Emmanuel Ramazani Shadari, était en visite samedi dans cette région. Solange Nyamulisa a recueilli le témoignage d'un habitant de Kananga qui a préféré garder l'anonymat par peur des représailles.
La situation actuelle à Kananga, le premier ministre Emmanuel Shadari qui est sur place, sont en train de négocier. Ils ont choisi un autre chef qui pourra être installé effectivement. Lorsque le chef sera investi, il pourra tout faire pour convaincre les miliciens qui sont de son côté de faire la paix, quoi. Même à Kananga ici, dans le centre de la ville, il y a un peu d'accalmie, mais à l'intérieur où ça ne va pas là. Et ils ont tué beaucoup même, comme à Katoka, on a tué des garçons. Bon, vers une range, souvent aussi, il y a des tirs, tout dans la périphérie. Six chauffeurs qui ont été tués, donc quatre chauffeurs et deux mécaniciens. On a tout brûlé, on a tué tout ce monde-là. Il y a ceux qui sont en brousse, il y a ceux qui sont déplacés pour être dans des familles d'accueil. Moi-même, chez moi ici, j'ai mes frères qui sont avec moi ici. Et c'est comme ça partout. Moi, jusque-là, la famille n'y est pas encore. Nous attendons voir.
Nous écoutions un habitant de Kananga qui a préféré rester anonyme par peur des représailles. Et puis par ailleurs, le pasteur Mukungu Bila aurait obtenu l'asile politique en Afrique du Sud. Pretoria n'a pas confirmé cette information donnée par Charlie Midjedim, le porte-parole du chef de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il est accusé par Kinshasa d'être le cerveau d'attaques qui ont fait des centaines de morts en 2013. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a entamé aujourd'hui une visite officielle de 6 jours en Arabie Saoudite. Plusieurs accords économiques et militaires devraient être signés. Ibeka se rendra également à Médine pour une visite des lieux saints. En Côte d'Ivoire, le débat sur la succession du président Ouattara a ressurgi dans la presse et les réseaux sociaux, prêtant à Guillaume Soro des ambitions présidentielles. À tel point que le président de l'Assemblée nationale a publié un communiqué où il dénonce un débat, je le cite, « indécent et inopportun ». Et Guillaume Soro précise que 2020 se décidera avec messieurs Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier. La Mauritanie va bénéficier d'un appui de 800 000 euros accordé par la France pour un projet d'appui à la démocratie et à la cohésion sociale. Cette subvention a été signée aujourd'hui à Nouakchott par Michel Sapin, le ministre français de l'économie, et son homologue mauritanien, Mokhtar Oul Diaye. La Tunisie veut lutter contre le travail des enfants. Le gouvernement a présenté aujourd'hui un projet pour lutter contre ce phénomène qui, selon le ministre des Affaires sociales, aurait pris de l'ampleur ces dernières années, notamment dans l'agriculture, les ateliers de menuiserie, les garages et les coiffeurs. Financé à hauteur de 3 millions de dollars par les États-Unis, ce programme va durer 3 ans. Accalmie en Méditerranée après un week-end chargé pour les sauveteurs, 8500 migrants ont été secourus au cours de 35 opérations de sauvetage au large des côtes libyennes. Les précisions d'Anastasie Toudiesh.
Le mauvais temps a empêché lundi de nouveaux départs de migrants depuis les côtes libyennes. 8500 personnes ont été secourues et 13 retrouvées mortes ce week-end de Pâques. Les gardes-côtes italiens mènent les opérations de sauvetage en Méditerranée centrale. Selon l'ONG Jugendrettet, environ 3000 personnes ont été secourues en une seule journée samedi. Pauline Schmitt a ajouté que son organisation n'a jamais eu à s'occuper d'autant de personnes en même temps. Vendredi, plus de 2000 migrants ont été secourus. Un adolescent a été retrouvé mort dans l'un des canaux à la dérive. De nombreux migrants meurent étouffés ou noyés dans ces embarcations surchargées par les passeurs. Quelques 27 000 migrants venant essentiellement d'Afrique subsaharienne ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année.
Au moins 5 personnes sont mortes dimanche dans le nord du Malawi dans le naufrage de leur embarcation. Plus de 60 personnes de retour des célébrations du week-end de Pâques avaient embarqué sur un bateau surchargé qui a chaviré suite à des vents violents.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le président turc Recep Tayyip Erdogan fait face lundi à une contestation croissante de l'opposition au lendemain du référendum constitutionnel sur l'extension de ses pouvoirs. Les deux principaux partis d'opposition ont dénoncé des manipulations et annoncé leur intention de demander le recomptage des voix. Salwa Jaafari.
Le score serré du référendum illustre bien la polarisation de la Turquie. La réforme constitutionnelle a été approuvée à une courte majorité de 51,37%. Les opposants n'ont pas manqué de montrer leur mécontentement dès l'annonce des résultats. Les deux principaux partis d'opposition, le Parti républicain du peuple et le Parti démocratique des peuples, ont dénoncé des manipulations et ont annoncé qu'ils feraient appel. Bulent Tezcan, secrétaire général du CHP.
La seule décision qui mettra fin au débat sur la légitimité du vote et aux préoccupations juridiques des citoyens est l'annulation de ce référendum par le Haut Conseil électoral.
Le président Erdogan devrait retrouver sa place dans les rangs de son parti, premier volet de la réforme constitutionnelle élargissant ses pouvoirs. Les autres prérogatives n'entrent en vigueur qu'après les élections prévues en 2019.
Et pour être tout à fait complet, au lendemain de ce référendum, les États-Unis ont exhorté aujourd'hui les dirigeants turcs à respecter l'opposition et la liberté d'expression. Washington n'a pas remis en cause les résultats de cette consultation, mais a pris note des inquiétudes exprimées par les observateurs de l'OSCE et appelé le gouvernement turc à respecter les droits de tous les citoyens, quel que soit leur vote. Plus d'un millier de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont entamé aujourd'hui une grève de la faim collective. Ce mouvement de protestation inédit a été lancé par Marwan Barghouti, leader de la deuxième intifada. Marwan Barghouti a été condamné à la perpétuité. Dans une tribune envoyée au quotidien, le New York Times, depuis sa prison, Barghouti, la figure de la résistance palestinienne à l'occupation israélienne, affirme que cette grève de la faim a été lancée pour mettre fin aux abus de l'administration pénitentiaire israélienne. Le vice-président des États-Unis a mis en garde le gouvernement nord-coréen contre toute tentative d'éprouver la détermination du président Donald Trump. Mike Pence a lancé cet avertissement à Séoul alors que la tension monte entre Washington et Pyongyang sur la question nucléaire. Chérubin Gabi Dorsil nous en dit plus.
Suite à une visite très symbolique de la zone démilitarisée, Mike Pence a fait référence aux récentes frappes américaines en Syrie et en Afghanistan avant d'affirmer que le président Donald Trump utilisera la force militaire si nécessaire pour faire face à la menace nucléaire croissante du gouvernement de Kim Jong-un. Le vice-président est arrivé dimanche en Corée du Sud au début d'une tournée dans 4 pays asiatiques pour renforcer l'engagement des États-Unis envers ses alliés dans cette région de plus en plus volatile et pour développer un soutien international et faire pression sur Pyongyang. Lors d'une conférence de presse à Séoul, le vice-président Pence a rappelé les efforts déployés depuis 1992 pour une péninsule coréenne dénucléarisée. Et Mike Pence d'ajouter « Toutes les options sont sur la table ». Moscou condamne les aventures nucléaires et balistiques de Pyongyang, mais rejette toute action unilatérale du gouvernement américain.
En Irak, la bataille de Mossoul a fait près de 500 000 déplacés selon les Nations Unies. Le nombre de civils fuyant Mossoul est ahurissant, affirme Elisa Grande, la coordinatrice humanitaire de l'ONU en Irak, dans un communiqué. Et puis crise au Venezuela, le président Nicolas Maduro a annoncé que l'armée sera déployée dans tout le pays à 2 jours d'une nouvelle manifestation de l'opposition. Mercredi marquera l'anniversaire de la révolution de 1810 qui a mené à l'indépendance. L'opposition a choisi cette date pour appeler à une grande manifestation pour exiger des élections anticipées. De son côté, le gouvernement a aussi appelé à des manifestations. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Dili Dico.
Au Cameroun, la réforme des marchés publics a permis au Trésor d'économiser 500 milliards de francs CFA en 5 ans. Selon Abassadou, le ministre des marchés publics, la réforme de 2011 a promu une concurrence saine. Les économies ont été obtenues par la réduction du nombre de marchés publics passés de gré à gré de 46 à 10%. Plusieurs milliards de francs CFA ont été économisés sur des doubles facturations, des surfacturations et des demandes de paiement pour prestations non exécutées. Au Bénin, le président Patrice Talon s'est prononcé hier sur le franc CFA. Il a loué les mérites de la parité fixe avec l'euro. Selon lui, le fait que le franc CFA soit en parité fixe avec l'euro n'est pas du tout un handicap. Il a ajouté que la stabilité d'une monnaie par rapport aux devises est un avantage. Sa prise de position survient après la déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara soutenant la solidité du franc CFA. Selon une étude du cabinet McKinsey, parue dans la Harvard Business Review, 5 pays africains sont menacés par la robotisation. Les emplois sont le plus en danger face à l'automatisation au Kenya, au Maroc, en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud. Dans ces pays, entre 52 et 41% des métiers peuvent être remplacés par des robots.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire.
Ligue, nous commençons par du foot. Ligue des champions en Europe, 3 belles affiches demain en quart de finale retour.
Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich. Malgré l'absence de Gareth Bale, tout place le Real en position de force pour décrocher sa 7e qualification consécutive pour les demi-finales et rêve de devenir le premier club depuis l'AS Milan en 1990 à conserver sa couronne européenne claire. Et Cristiano Ronaldo, au top de sa forme, vise à totaliser la barre mythique des 100 buts en Ligue des Champions. Il ne lui manque que 2 buts.
Mais Eric, le club munichois reste la bête noire de l'orgue meringue.
Tout à fait. On lui reconnaît son fort caractère de l'équipe et sa volonté hors du commun. Donc, gare à ne pas enterrer trop vite le Bayern. En 2013, l'attaquant polonais Robert Lewandowski, forfait lors du match aller, avait inscrit 4 buts face au Real pour envoyer Dortmund en finale. Mais sa défense est très affaiblie, sans Javi Martinez qui est suspendu, éventuellement sans défenseurs centraux de métier comme Jérôme Boateng et Mats Hummels.
Eric, on parle aussi beaucoup de la rencontre Barcelone-Juventus.
Le Catalan joue son avenir européen. Il compte surtout sur le grand Léo, le principal atout pour rêver de remontada pour remonter 3 buts à la Juventus à sa défense de fer. Le gardien Gianluigi Buffon n'a jamais encaissé de but signé Messi. Le Barça a déjà réussi l'exploit historique pour de renverser le Paris Saint-Germain en 8e de finale. 6-1 et l'Argentin entend atteindre 500 buts clairs sous le maillot barcelonais en inscrivant 2 réalisations.
Parlez-moi un petit peu maintenant, Eric, de Leicester Atlético.
L'objectif est clair pour l'Atlético. Il faudra aller chercher la qualification pour les demi-finales.
NBA, hier, on a assisté au premier match des playoffs.
Oui, le championnat de basketball nord-américain, Golden State, a remporté sa 21 à 109 contre Portland. Houston, de son côté, a écrasé Oklahoma City 118 à 87. La surprise de la journée est venue de Boston, où Chicago a fait tomber les Celtics 106 à 102 pour arracher son billet pour les playoffs. Washington a battu Atlanta. Victoire difficile de Cleveland contre Indiana. Toronto s'est incliné devant Milwaukee. San Antonio a renversé Memphis et la Clippers a perdu face à Utah 95-97. Claire.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Et nous nous rendons à Brazzaville, qui est en panne sèche depuis plusieurs semaines. Devant chaque station-service, de longues files d'attente. Obtenir quelques litres d'essence ou de gasoil est devenu le nouveau spectacle en vogue dans la capitale de ce pays pétrolier. De Brazzaville, le reportage de Nguelan Goussou.
Cela fait plusieurs semaines que ça dure. De longues files d'attente devant des stations-service pour espérer quelques litres d'essence ou de gasoil. Les automobilistes n'en peuvent plus à Brazzaville.
Ça fait depuis hier à 11h que je suis là. J'ai passé une nuit ici, ma voiture est là. On nous a promis qu'on devait vendre ce matin, malheureusement. Jusque-là, on n'a aucune nouvelle.
On dort ici, on fait passer tout ici. Rien pour avoir le carburant avant nous, c'est très difficile. Des fois, ils ont le carburant, mais pour livrer vraiment au client avant nous, c'est difficile.
Au fait, dans la station, nous n'avons pas de nouvelles sur le chef de vente. Nous nous faisons attendre, c'est-à-dire espérer. On ne sait pas si ça va arriver ou pas.
Oh, mais ça fait au moins plus de 3 jours, moi, je suis à la station. Je n'arrive, mais je vais, j'entends de veiller ici, je mange ici. C'est des trucs vraiment, ça ne marche pas.
Ces pénuries ont un impact certain sur l'activité des transporteurs en commun, dont la tension reste très palpable. Très souvent, la ville se réveille au ralenti en l'absence d'une circulation dense.
Mais oui, quand on vient livrer souvent chez des chefs qui viennent souvent les voitures personnelles, hein, comme ils nous voient seulement comme s'ils ne sont pas des... Ils ne sont pas importants, quoi. Donc, nous sommes importants pour déplacer les travailleurs, les malades qui vont à l'hôpital.
Là, vous voyez, on a au moins 1000 véhicules hein, stationnés là. 1000 véhicules.
Vous voyez, on ne travaille pas bien. Dans une semaine, on peut travailler 2 jours. Ça dit 3 jours. Après, bon, après 4e jour, nous sommes à la station.
Le Congo-Brazzaville est toujours dans le top 5 des producteurs du pétrole en Afrique. Malheureusement, la raffinerie nationale ne fournit que moins de 30% des besoins locaux. Et d'ailleurs, cette raffinerie devait rester fermée tout ce mois d'avril pour travaux d'entretien. Les taximen, eux, ne manquent pas d'ironie.
Ouh là là, c'est une manœuvre de guerre.
Du côté des consommateurs, on ne justifie pas la pénurie combinée du gaz et du carburant. Mermos Babunga, responsable de l'association de défense des droits des consommateurs, parle d'une pénurie savamment entretenue par un réseau de corrupteurs.
À chaque fois qu'il y a pénurie, c'est cette vente avec les bidons qui est privilégiée. Et ce sont les policiers qui collectent les bidons autour de la station moyennant 2000 ou 3000 francs. Et les pompistes et les policiers ne sont pas seuls. C'est un véritable réseau. Les pénuries de carburant sont entretenues par ces réseaux de corruption pour se faire de l'argent plus tôt.
Pour l'heure, aucune solution n'est envisagée à l'immédiat. Hier soir, des milliers de voitures ont passé une unième nuit des dimanches devant les stations, alors que le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tissert-Tikaya, prévoit le début de solution vers octobre 2017, concernant particulièrement le gaz. Nguelan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM. En Italie, les gardes-côtes affirment avoir secouru près de 8500 migrants en Méditerranée depuis vendredi, soulignant notamment que rien ne semble freiner le flux par cette voie périlleuse. C'est dans ce contexte qu'un groupe d'Africains vivant en Europe s'est rendu au Cameroun cette semaine pour lancer une campagne contre la migration illégale. Les détails dans ce reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, présenté ici par Bagassi Koura.
Le groupe s'appelle « Plus de morts dans le désert ou en mer ». Sa mission est simple, éduquer les jeunes Africains à propos des dures réalités de la migration illégale.
Nous voulons leur dire que toutes les informations que les gens leur donnent avant de commencer leur voyage sont fausses.
Le leader du groupe, Sylvie Nancha, est née au Cameroun. Elle a vécu dans la ville allemande de Fribourg pendant 25 ans. Elle est arrivée en tant qu'étudiante et est devenue la première conseillère d'origine africaine de la ville.
J'ai fait beaucoup d'entretiens l'année dernière avec les Africains. Ils m'ont dit que lorsqu'ils ont commencé leur voyage, ils pensaient que le voyage leur prendrait peut-être 2 semaines. Mais ils ont passé 1 an, 2 ans, voire 3 en route. Ils ont dépensé plus de 10 000 euros. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Italie, en Espagne ou en Allemagne, ils n'avaient rien.
Bien sûr qu'il s'agit de migrants qui ont survécu. L'Organisation internationale pour les migrations rapporte que plus de 5 000 personnes sont mortes en 2016 en Méditerranée. C'est une augmentation de 35% par rapport au décès de l'année précédente. Nansha s'est associé à 9 autres Africains vivant en Europe. Ils envisagent de visiter le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Niger, l'Algérie et la Libye d'ici la fin de cette année pour visionner un film basé sur les entretiens de Nansha avec les migrants. Des centaines de personnes se sont rassemblées à chacune des 3 projections à Yaoundé cette semaine. L'objectif du film est de dissuader la migration illégale, mais les jeunes ont déclaré à VOA Afrique qu'ils connaissaient déjà les risques. Certains disent que le manque d'emploi et les politiques d'immigration restrictives de l'Europe laissent peu d'options. Ngenang Bruno est âgé de 24 ans.
Je n'ai pas besoin d'un film aujourd'hui, c'est plusieurs films déjà. Mais je pense que c'est un choix que beaucoup ont décidé de prendre. Beaucoup pensent que le seul moyen aujourd'hui de vivre, c'est de mettre sa vie en danger, à traverser un désert, à traverser la mer.
Robert Alain Lipoti, 29 ans, lave les assiettes dans son restaurant dans le quartier d'Etoudi. Son oncle lui a prêté l'argent pour commencer ses affaires après qu'Alain soit rentré de sa triste aventure à travers le désert, tentant de se rendre en Europe. Milingi Biapol, lui, a 35 ans. Il est allé jusqu'en Algérie où il a été arnaqué.
Nous passons 3 semaines au désert du Sahara. Parfois, la nourriture finit, vous perdez au désert. Vous voyez des gens mourir devant vous. Quoi, les ossements humains?
Malgré les difficultés, plusieurs rapatriés disent qu'ils vont essayer de repartir à nouveau.
Très bien, le Cameroun est bien, mais le Cameroun, pour moi, je dirais, c'est en terre des jeunes. Mon rêve, ce n'est pas de rester au Cameroun, de continuer à Kwafo Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Sénégal, la fête de Pâques est l'occasion pour la minorité catholique de distribuer aux frères et sœurs musulmans d'une galache, un plat dont raffole la population. Il s'agit d'une tradition vieille de plusieurs décennies qui met en exergue une entente parfaite entre ces deux communautés, nous dit notre correspondant à Dakar, Sédina Abaygaye.
Le galach est un mélange sucré à base de pain de singe, de pâte d'arachide et de couscous de mil. Ce repas est servi spécialement durant les fêtes de Pâques. Léontine Diata, fidèle catholique.
La fête de Pâques, c'est pour rendre hommage à Jésus. Mais comme les musulmans nous gratifient de copieux repas lors de leurs différentes fêtes, c'est pourquoi nous profitons de Pâques pour leur rendre la politesse en leur servant le galach. Cette action est une lointaine tradition que nous avons le plaisir de pérenniser car ça nous permet de raffermir nos liens avec nos frères et sœurs musulmans.
Pour Mamoudou Diagne, cette tradition s'inscrit dans la lignée de la cohabitation exemplaire entre musulmans et catholiques.
Au Sénégal, c'est un cas exceptionnel. Souvent, dans des familles, on voit les grands-parents ou les arrière-grands-parents, c'est presque la même famille. Celui-là est chrétien, celui-là est musulman. Il n'y a pas une grande différence entre les communautés, quoi. Il n'y a pas une grande différence, on se marie entre nous. Ça ne choque personne et ça pose aucune difficulté. Je crois qu'on nous croit au bien et ça, c'est dû à ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont fait.
Abbé Alphonse Sek, directeur des œuvres sociales du diocèse de Dakar, ajoute que cette coexistence entre musulmans et catholiques tire son essence dans les valeurs historiques et dans l'origine même de la nation sénégalaise.
Cette entente, cette cohésion fait naître évidemment des actions de solidarité, des actions aussi qui sont basées sur l'amour, simplement, et de respect que les uns et les autres se manifestent et se vouent, particulièrement par le fait que, justement, nous tous, nous avons conscience que nous avons le même peuple, que nous avons la même tradition et la même histoire, mais aussi, surtout, que nous sommes des croyants. Il y en a qui sont musulmans, d'autres sont chrétiens, d'autres sont même animistes. Et donc, par ce fait-là, une telle cohésion ne peut être possible que si chacun ou chacune des parties vit dans le respect mutuel, dans l'amour mutuel et dans la solidarité.
Loin des troubles ethniques et religieux qui secouent l'Afrique et le monde, le Sénégal offre un véritable exemple de coexistence pacifique entre communautés. Musulmans et catholiques vivent dans une harmonie totale dont l'un des symboles les plus forts demeure le Ngalakh de Pâques. Ce repas si spécial. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La tension monte dans la péninsule coréenne. Le vice-président américain Mike Pence, en visite dans la région, a déclaré que l'ère de la patience stratégique pratiquée par les précédentes administrations américaines était terminée. Que peut bien signifier cette mise en garde à l'endroit de Pyongyang? La réponse de l'analyste politique américain Simon Serfati, joint à Washington par Abdourahmane Dia.
Si l'on s'en tient à ce qu'il a dit, cela veut dire que l'option militaire est placée de plus en plus en avant de la conception stratégique de l'administration. Mais il ne faut pas se limiter à ce simple propos, parce que le vice-président a aussi semblé ouvrir la possibilité d'une voie diplomatique.
Monsieur Serfati, ce week-end, le patron du Conseil national de sécurité, le général McMaster, a également dit que toutes les options étaient sur la table. Est-ce que l'option militaire vous semble envisageable vraiment?
Je crois très dangereusement. Les risques sont véritablement énormes. Parce que d'une part, la Corée du Nord a des moyens de représailles très importants vis-à-vis des pays voisins, y compris Séoul, qui après tout est une trentaine de kilomètres du 38e parallèle de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et également vis-à-vis du Japon, et des moyens militaires très importants qui ne pourraient pas être totalement éliminés par une frappe américaine, quelle que soit sa nature. Et d'autre part, il y a à Pyongyang une direction qui est malgré tout au bord de l'irrationalité et qui est disposée à prendre elle-même des risques très importants. Donc la frappe militaire ne peut être considérée véritablement comme un dernier recours et nous n'en sommes pas encore là.
Sans oublier le rôle que la Chine pourrait éventuellement y jouer.
Parce qu'une démarche diplomatique ne pourrait avoir lieu qu'avec un soutien, un apport, un appui de la Chine. Souvenez-vous que l'ouverture sur l'Iran, initiée en fait par le président George W. Bush, avant même Obama, c'était à l'origine faite par État interposé. C'est-à-dire que c'était en fait la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui avaient initié cette conversation avec l'Iran, puis remplacée par l'Union européenne agissant au nom des trois, et puis éventuellement amenant la participation américaine.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-510-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, dans Universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Caro, they make my head the tone. Caro, they make me want to lose them. Caro, they make my head the bang. Caro,
voilà, c'était Caro et Whisky. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la mise en onde. Sims Loumami à la console, Micha Lubinski. Au micro, Claire Moragibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Tout de suite, Sporama, présenté par Eric Manirakiza. Très bonne soirée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.